Il y a un autre événement au mois de juillet en France qui se passe, qui est transmis mondialement. Quel est cet événement? Je suis sûr qu'il y a des fans ici ce matin qui sont venus d'ailleurs avec... c'est... Ah, oh là, il y a des... Qui regarde? Qui suit le tour de... N'ayez pas honte, messieurs, mesdames. Là, il y en a quand même. Eh oui, ah bah quand même. Bon. D'accord, donc j'ai pris des notes parce que je sais qu'il y a des spécialistes ce matin du Tour de France, donc pour ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est le troisième événement mondial, le plus regardé dans le monde. Alors, les statistiques nous donnent 1 milliard, mais l'organisateur nous dit c'est 3 milliards. Voilà, c'est toujours l'organisateur qui nous dit il y a plus de monde que cela. Alors, en France, c'est 42 millions de Français qui le suivent. On est compte, en 2023. Cette année, c'est du 5 au 27 juillet, 21 étapes, 11 régions, 34 départements visités, 3320 km. Il faut quand même les faire, Et puis 184 coureurs, ça c'était au départ, certainement qui ont abandonné. Et puis il y a 23 équipes. Voici quelques chiffres de notre fameux Tour de France. En tout cas, ça m'a fait penser qu'il y a 3500 ans, c'est tout le peuple hébreu qui, lui, eh bien, ne va pas faire un Tour de France, vous le savez, mais plutôt va passer de l'Égypte, point de départ, à Canaan, terre promise. Ils sont un peu plus d'un million et demi donc pour ce tour. Et puis, j'ai regardé la distance qui est parcourue. Elle n'est pas énorme, cette distance. C'est 650 kilomètres en ligne droite. On est bien d'accord. Alors, même nombreux, on aurait pu penser quand même qu'en quelques semaines, allez, en quelques mois, ils auraient pu bien traverser donc ces 650 kilomètres. Mais la Bible nous apprend, il a fallu combien de temps? Ils ont fait juste une petite boucle, de 40 ans dans le désert, juste un petit détour, un petit crochet. Parce que je me suis amusé à calculer là, en ligne droite, 650 kilomètres environ. Eh bien, finalement, en 40 années, bon, je compte pas les kilomètres dans le désert, mais ils ont avancé 44 mètres 50 par jour. Ça fait du 3 mètres, pour les puristes, 0,7 par heure. Soit la vitesse de quoi? Qui se déplace à 3,7 mètres par heure? C'est l'escargot. C'est la vitesse de l'escargot. Voilà. Et alors ce matin, je pense que parfois on a l'impression de progresser nous aussi à la vitesse de l'escargot, dans notre marche avec Dieu. La Bible nous parle de gazelle, elle nous parle d'aigle, elle nous parle d'animaux rapides et vigoureux auxquels on veut s'identifier. Mais il faut reconnaître que parfois, notre vitesse de progression, c'est plutôt celle de l'escargot. Alors ce matin, on va faire un parallèle avec les étapes du Tour de France et puis celles du peuple hébreu. Il y a quatre grands types d'étapes, messieurs, dames, dans le Tour de France. Vous qui êtes les spécialistes, citez-moi les quatre sortes d'étapes qu'on retrouve souvent. Il y a le contre-la-montre, la montagne, la plaine, et puis il y en a une autre. Voilà, c'est l'accidenté. Voilà, c'est les quatre grandes étapes. D'accord ? Il y en a 7 de plaine, 6 accidentés, 6 de montagne, 2 contre-la-montre individuels. Voilà. Et on va faire ce parallèle ce matin entre ces étapes, celles du peuple d'Israël, et puis les nôtres. Les nôtres, là aussi, parce qu'on pourrait faire une analogie entre notre vie, finalement, qui est une succession d'étapes. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que dans nos vies, il y a eu des étapes. Et Dieu va nous aider à appréhender au mieux les étapes que nous allons traverser. On va commencer par le facile, d'accord ? Les étapes de la plaine, les étapes de la vallée. Bon, en général, ce sont les étapes les plus faciles. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, bien sûr. On peut se laisser conduire par les petits copains. Je ne suis pas un spécialiste, mais on se met derrière la roue des autres et puis pratiquement, on se laisse tirer. Ça va bien, on relâche la tension, on peut plaisanter un petit peu. Enfin, voilà, c'est des étapes de plaine, de vallée qui, a priori, sont faciles. Sauf que, vous le savez très bien, dans la facilité, eh bien, parfois, on peut chuter. Un des spécialistes, Brest-Landerneau, première étape du Tour 2021. Que se passe-t-il? Le peloton arrive tranquillement, là, il ne roule pas très vite, et puis il y a une brave supportrice qui est là avec sa pancarte. Alors, je ne sais pas si c'est le maire, aller Poulidor ou aller à Antine. Non, à mon avis, c'était pas ça. Hein. Et puis, il y en a un qui tombe. Deux, trois, quatre. Et le peloton chute à 15-20 km/h. Il n'y avait pas de difficulté, etc. On arrête le peloton, ça dure quelques minutes, etc., etc. Et il y aura des blessés, il y aura même des abandons. Pourtant, une étape facile, une étape de plaine. J'ai pensé à un certain Lot. Alors Lot, ce n'est pas un coureur de la Festina ou etc. Ne le cherchez pas dans vos tablettes. Lot, c'est dans Genèse 13. Et vous vous souvenez de ce moment où, parce que les troupeaux avaient une vigueur extraordinaire, ils vont être obligés de se séparer. Il y avait des disputes. Et voilà ce qu'il est dit dans Genèse 13. Versets 8 à 13, je résume. Lot choisit quoi ? Pas la montagne, etc. Il choisit la plaine. Les meilleurs pâturages pour ses troupeaux. Apparemment, c'était quand même le choix le plus judicieux. C'était la plaine. Et puis, quelques lignes plus tard, il est dit ceci, ils vont installer les tentes jusqu'à Sodome. Voilà, jusqu'à. C'est pas encore dedans, mais c'est jusqu'à. Sauf que le problème, c'est que quelques années plus tard, on retrouve Lot installé dans Sodome. Et puis il semble qu'il ait une position quand même d'autorité, puisqu'on le retrouve à la porte, hein, là où on traitait les affaires. Et Lot, finalement, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est relâché. Lot s'est relâché. Même si l'Écriture dit qu'il tourmentait son âme chaque jour à cause de ce qu'il voyait ou de ce qu'il entendait, Lot, malgré tout, était prisonnier de ce qu'il combattait. Il s'était relâché. La plaine était fertile, mais il s'est fait piéger. Que nous dit l'Écriture ? 1 Corinthiens 10, 12. Celui qui croit être debout, fasse attention à quoi ? À ne pas chuter, à ne pas tomber. Les vacances, et on se les souhaite, hein, peuvent être des moments extraordinaires, de ressourcement spirituel, moral, physique, familial. On est en famille, on a un autre rythme, on mange autre chose, on n'a pas d'heure, on peut lire un bon bouquin, se détendre, etc. Ça peut être formidable, les vacances, spirituellement, de se reconnecter là aussi. Mais aussi devenir des moments de relâchement, où on va tomber dans la tentation, voire de chute, etc. Alors, ce matin, si c'était le cas, si quelques-uns au milieu de nous vivaient une étape de plaine tranquille, mais que la chute est là, eh bien, rappelons-nous ce matin bien que notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. La Bible nous parle de lui confesser cette réalité. Ne restons pas à terre, ne restons pas sur le bitume, mais là aussi, bien, disons-lui, Seigneur, bien, j'ai chuté, lui confesser, c'est déjà eh bien, permettre au Seigneur de nous relever, de nous secourir. Le psaume 84, verset 6, dit ceci. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la plaine des pleurs, parce qu'il y a eu la chute, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie, donc, lui donne les bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Juste une petite remarque sur ce psaume, il la transforme en un lieu plein de pluie, il, c'est au pluriel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ceux qui sont relevés, ceux que Dieu relève après la chute, deviennent une source de bénédiction pour les autres, c'est extraordinaire. Deviennent une source de bénédiction pour ceux qui les côtoient, ceux qui, eux aussi, bien, ont chuté. Et ce matin, bien, on a un Dieu de grâce qui relève, qui secourt. Si je traverse cette étape de plaine où tout m'a semblé facile et puis que j'ai chuté, eh bien, confessons-lui, il va nous relever et il fera même de nous une source de bénédiction pour les autres. C'est extraordinaire. La grâce et la miséricorde de Dieu. Deuxième étape, c'est l'étape accidentée. Alors celle-là, c'est quand même une étape un peu piégeuse. Hein. C'est pas du plat. C'est peut-être du faux plat, c'est pas de la montagne, on ne sait pas trop à quoi s'attendre finalement. Hein. Alors je sais que les cyclistes repèrent, ils connaissent un petit peu les routes, mais petite montée, grosse descente, virage, etc., ligne droite, bon, différents types de reliefs, mais c'est quand même une étape qui est piégeuse. Alors si on revient à notre peuple d'Israël ce matin, bien, On peut dire que finalement, ce genre d'étape accidentée qu'il va connaître, eh bien, il va connaître ce genre d'étape dans ce désert. Pendant 40 années, là, tourner en rond dans ce désert, eh bien, ils vont eux-mêmes vivre ce genre d'étape accidentée. Même si c'est Dieu qui les conduisait par la Shekina, eh bien, ils vont trouver là aussi des lieux différents. Et puis, c'est la plupart des étapes. Hein, certains disent, vous allez compter peut-être un jour sur vos Bibles, il y a plus de 45 étapes, là aussi, hein, que le peuple d'Israël va vivre. Je me souviens toujours de ce désert pour un couple. C'est un jeune couple, il s'appelle Serge, lui, elle s'appelle Elisabeth. Et comme voyage de noces, parce que ce frère est un baroudeur, il offre à sa femme eh bien, un voyage dans un désert. Il me semble que c'est du côté du Maroc. Bon, c'est pas mal. Vous imaginez avec des 4x4, des chameaux, etc. Non, il dit on va y aller en 4L. Je vous parle de ça il y a 30 ans, hein, pour ceux qui... On va y aller en 4L, tu vois, ça va être formidable. Un voyage de noces en 4L. Ah oui, la 4L, elle a fait 2 jours, 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, la pauvre 4L, elle a rendu l'âme dans le désert. Voilà. Et ils allaient mourir, jeunes mariés. C'est extraordinaire quand même, partir ensemble vers le Seigneur. Hein. Non, Dieu leur a fait grâce, il leur a envoyé une vraie caravane de chameaux, je ne sais pas qui, des Touaregs qui les ont sauvés, mais voilà, donc une expérience. Donc si vous voulez faire offrir à votre future épouse et époux un voyage dans le désert, prenez autre chose qu'une 4L, je vous en prie, hein, ça ira beaucoup mieux. Mais en tout cas, ce parcours accidenté dans le désert, il m'a fait penser à... Il y a deux sortes d'accidents ce matin pour nous. Il y a ceux qu'on provoque... Et il y a ceux dont on est victime. D'accord, hein ? Il y a ceux qu'on provoque et il y a ceux dont on est victime. Ceux que nous provoquons. Je ne vais pas vous relire hein, nombre 14, mais s'ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans cette étape du désert, c'est parce qu'à un moment donné, on le sait, il y a 10 espions sur 12 qui ont dit non, il ne faut pas y aller dans ce pays promis. Hein, ils ont été incrédules, ils ont méprisé la parole de Dieu et tout le peuple a suivi. Et là, c'était vraiment une conséquence de leur incrédulité, de leur désobéissance, de leur faute, parce que, eh bien, ils ont désobéi et ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et heureusement pour nos agriculteurs, on récolte ce qu'on sème. C'est un principe spirituel qui est biblique. Hein, si vous semez des carottes, en principe, ce n'est pas des radis qui vont pousser ou des pommes de terre. Ou alors, eh bien, déposer un brevet, hein, ça peut aussi aider. Il y a des accidents, des parcours de vie dont on est responsable. Et on ne peut pas blâmer les autres. On ne peut pas dire c'est de la faute des autres. Hein, il y a une sœur ici qui nous parle souvent du syndrome adamique. Vous connaissez le syndrome adamique ? Hein, c'est pas moi ? Vous connaissez la suite, hein ? Et puis la femme dit « Ah, c'est pas moi !» Et puis c'est le serpent. Voilà. Donc on a la chaîne de responsabilité. Mais ce matin, il faut reconnaître que de temps en temps, il y a des accidents qui sont de notre faute et on en vit les conséquences. Et là encore, si ce matin nous passons par cette étape de l'accident responsable de notre faute, eh bien, la Bible nous dit si nous reconnaissons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Quand vous avez un accident, que vous soyez responsable ou pas, vous allez à l'hôpital, on va vous demander, alors, vous êtes responsable, vous êtes quoi ? Ah ben, je ne vous soigne pas. Ah ben, si c'est de votre faute, moi, je ne vous soigne pas, débrouillez-vous. Non, après, il y aura une enquête, certainement, mais le médecin a obligation de vous soigner, responsable ou pas. Et croyez-vous que ce matin, Dieu, qui n'est pas le divin médecin, ne va-t-il pas nous soigner également, même si nous sommes responsables ? Alors, confessons-lui, Seigneur, c'est vrai, là, cette plaine accidentée, eh bien, je reconnais, c'est de ma faute. Et j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin que tu me restaures, j'ai besoin que tu me guérisses, j'ai besoin que tu me relèves. Et puis, il y a aussi des accidents dont nous sommes victimes. Dans ce temps de désert, dans ces étapes de désert, il y a au moins pendant 40 ans, 2 personnes qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas coupables, et qui ne sont pas directement liées, et pourtant qui vont tourner en rond comme les autres. Vous vous rappelez leur nom ? C'est Josué et Caleb. Ils sont pour rien. Ils l'ont dit au pape, mais non, mais allons-y, Dieu est avec nous, ils y sont pour rien. Et pourtant, ils sont aussi victimes de cet accident de parcours. Et eux aussi vont suivre pendant 40 ans, eh bien, le peuple, hein, chaque jour, sur cette étape accidentée. Et on le sait très bien, lorsqu'on vit ce genre de situation où on est victime, et ça peut aussi arriver, eh bien, on peut développer toutes sortes de sentiments, l'injustice, l'amertume, la colère, le découragement, la résignation. Et on exprime ce fameux « mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Je n'y suis pour rien. C'est une étape accidentée, je suis victime de cet événement, je suis victime de cette personne, je suis victime de ses conséquences, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. » Que nous répondent Job, Jérémie et d'autres accidentés aussi de la route ? Job va dire ceci, et il y a peut-être des frères et sœurs qui vont mieux le comprendre que moi ce matin, parce qu'ils vivent cette situation. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ça, c'est une partie. Et puis, il y en a une autre. « Je reconnais que tout est possible pour toi, que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Et puis, ça a été cité aussi, mais on va le relire, c'est ce beau texte de Jérémie. Hein, dans ses lamentations, et il va dire ceci au chapitre 3, verset 19, il va dire « Souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absence, du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, je le proclame, l'Éternel est mon bien. » C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Amen. Même si on ne comprend pas toujours ses plans ce matin, même si nous vivons une étape accidentée dont on est victime, rappelons-nous bien qu'il est le Dieu de toute consolation. Il console, il restaure et puis il relève. Et puis il y a l'étape de montagne. L'étape de montagne, c'est certainement celle qui donne au Tour de France ses lettres de noblesse, mais aussi ses drames, ces moments terribles où des coureurs ont perdu la vie dans des ascensions de montagne. En effet, là, devant la montagne, les coureurs savent qu'ils vont souffrir. Ils savent que l'étape va être difficile, que peut-être c'est là qu'on risque de perdre le maillot jaune ou de le gagner ou de le conserver, de creuser l'écart, etc. Mais on le sait que la victoire, bien sûr, n'en sera que plus belle. Alors moi, je suis pas craintif de nature, mais lorsqu'un jour on est parti avec notre caravane en Italie, il fallait rejoindre l'Autriche. Et sur une carte plane, avec des belles couleurs, quand on fait un trajet, c'est extraordinaire. On prend le plus court. On se dit, on ne va pas faire un détour de je ne sais pas combien de kilomètres. On prend le plus court. Et le plus court, c'était un col en Italie qui s'appelle le col du Selvio. Bon, ben, je dis, on va le prendre, ce col, bien sûr. Et quand on est arrivé au pied du col, il n'y avait pas de panneau d'interdiction particulier. On pouvait monter. Alors, on a commencé à monter avec 5 vitesses. Rapidement, la quatrième, la troisième, la deuxième. Et puis après, j'ai commencé à monter en première. Il n'y avait plus que la marche arrière. Mais bon, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, plus on montait, plus il y avait des cyclistes d'abord qui nous doublaient. D'autres, ils venaient en face. Alors, à droite, à gauche, etc. Et là, je me suis dit, si je m'arrête, c'est terminé. Je bloque la route, je ne repartirai plus. Et c'est là, une des premières fois de ma vie. Ou alors je suis monté en tremblant, etc. J'ai dit, on n'y arrivera jamais. Ce petit col ne montait qu'à 2758 mètres. Je l'ai su au-dessus. Ils avaient tous un t-shirt, j'ai monté le Stelvio. Voilà. Moi, j'aurais dû ajouter avec ma caravane aussi. Mais bon, on ne me l'a pas donné, celui-là. Il a fallu redescendre après, donc c'était pareil. Mais bon, on était monté, on est redescendu, etc. Bon, en tout cas, la montagne, elle est indissociable, bien sûr, de la vie du peuple hébreu. Et il y a une montagne par excellence, vous la connaissez, qui est liée à Israël, c'est bien sûr le mont Sinaï, le mont Horeb, ou la montagne de Dieu. Dans Exode 19, il nous est dit que Moïse va y monter tout seul. Et vous qui connaissez votre Bible, vous savez dans quel contexte il va y monter sur cette montagne du Sinaï. C'est pas la montée facile avec 25 degrés, le soleil qui est bleu et puis les appareils photo, etc. La Bible nous dit que ce mont, à ce moment-là, parce qu'il y avait la présence de Dieu, il tremblait. Il y avait du feu, il y avait de la fumée. C'était impressionnant. Et Dieu avait dit, celui qui s'approchera, eh bien, il mourra. C'est terrible pour le peuple. Et Moïse va y monter de cette manière. Et c'est là, bien sûr, que pendant 40 jours et 40 nuits, il reçoit les commandements, il reçoit bien des instructions sur le tabernacle et puis la règle de vie pour le peuple, etc., etc. Il y a un chant qu'on aurait pu chanter ce matin, « Je veux monter sur la montagne », c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. La montagne nous parle donc d'effort, elle nous parle de discipline, elle nous parle de vigilance, pour entretenir notre communion avec Dieu. Et nous le savons, peut-être que ce matin, bien, nous passons par cette épreuve, cette étape de montagne, où notre communion avec Dieu a besoin d'être renouvelée, d'être fortifiée. De toute manière, il y a une part dans nos vies chrétiennes d'effort. Alors, je ne parle pas d'effort pour gagner notre salut. Je parle ici, et Pierre en parle mieux que moi, d'efforts pour accompagner, pour progresser. Je parle d'efforts ici pour être renouvelé. Regardez ce que Pierre, ça m'a toujours interpellé, l'équilibre que Pierre nous donne ce matin. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus grandes promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, devenir participant de la nature divine. Et on dit, gloire à Dieu, Seigneur, c'est super, la puissance, tout. Mais Pierre, il continue. Il ajoute juste ceci, pour cette raison, faites tous vos efforts, d'ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de l'épreuve de montagne, eh bien, c'est ce moment où j'entretiens, je dynamise ma relation avec le Seigneur. Priez, cherchez la face de Dieu, méditez la parole de Dieu, nous le savons, demande de la concentration, demande une certaine autodiscipline, nous le savons. Hein, c'est souvent le moment où on va être dérangé. C'est souvent le moment où nos pensées vont vagabonder. C'est souvent ce moment où, finalement, on va penser à autre chose et il nous faut nous discipliner. Ce n'est pas toujours facile. Il y a quand même quelques efforts à fournir. Je le rappelle, non pas pour gagner ou mériter notre salut, mais entretenir et progresser dans cette communion avec le Seigneur. Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais après avoir tout surmonté. Et puis la dernière étape, c'est l'étape du contre-la-montre individuel. Voilà, chacun face à face, sur sa machine, face au chrono, face au temps qui passe, face au temps qui s'écoule. Seul pour surmonter bien ce moment, seul pour gérer l'effort, seul pour appréhender les difficultés. Je ne sais pas, ils ont une oreillette, les cyclistes, au fait, comme les motards, oui, je pense, hein. On leur donne quelques consignes, mais bon. En tout cas, là, le manager peut lui dire « Vas-y, vas-y, fonce. » Si le gars, il ne pourra pas faire grand-chose. Mais il y a des moments où Israël ou Moïse se sont retrouvés seuls. Vous relirez le psaume 83, il est décrit « Bon nombre d'ennemis d'Israël ». Et là, Israël s'est retrouvé seul face à ses ennemis. Il y a des moments où Moïse va se retrouver seul face au peuple. Il y a ce moment terrible où le peuple, une fois de plus, j'oserais dire, eh bien, demande de la nourriture, vous le savez, il en a assez, etc. Et il demande de la viande. Il demande de la viande. Vous connaissez l'épisode, hein, dans Nombre 11, 14. Et Moïse va dire ceci, prends-moi la vie, Seigneur. Je ne peux pas à moi seul porter ce peuple. Il m'est trop lourd. Et Moïse se retrouve seul dans cette situation lorsqu'il commence à élever les mains pour intercéder en faveur de Josué qui est dans la vallée combattant Amalek. Eh bien, il va commencer seul à le faire. Aaron et Hur sont là, mais c'est au moment où il va commencer à fatiguer, qu'ils vont sauter, mais il va commencer seul. Il existe aussi, bien sûr, dans notre marche avec Dieu, bien des étapes où on a l'impression d'être seul, d'être dans nos difficultés, sans secours apparent, ou alors on attend un secours qui ne vient pas, on faiblit, et puis bien, on est prêt même à abandonner, poser le pied à terre, à dire écoutez, la voiture suiveuse, hop, le vélo, et puis je rentre chez moi. Il y a un phénomène que les sportifs d'endurance connaissent, alors c'est pas moi, hein, mais les sportifs d'endurance le connaissent, ils appellent ça le second souffle. Il y en a même, on parle du troisième souffle, c'est extraordinaire, hein. Mais le second souffle, c'est quoi? Eh bien, c'est une aisance respiratoire qui apparaît après les premiers efforts. Voilà, hein, d'après ce que j'ai lu, on commence vraiment et on tire la langue, on n'en peut plus. Et puis à un moment donné, parce qu'on persévère, il y a le second souffle qui arrive. Et le rythme cardiaque, etc., se stabilise et puis on peut prolonger, bien sûr, l'effort jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ce matin, dans des moments de solitude, peut-être que vous vivez, et quand nous sommes essoufflés, quand on est à bout de souffle, quand on n'a plus de souffle, eh bien, nous pouvons compter ce matin sur le souffle de Dieu, sur le second souffle, sur le souffle du Saint-Esprit, sur cette réalité où Dieu va nous redonner de la vigueur, du souffle. Il y a cette vision d'Ézéchiel qui est extraordinaire, hein, Ézéchiel 36-37, « Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » Et on sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas une intervention d'Ézéchiel, ce n'est pas lui qui a soufflé. Mais Dieu a soufflé par son esprit et on sait de quelle manière, bien sûr, ces eaux ont repris de la vigueur. Exode 40, verset 29, nous dit ceci. « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles et pas des escargots. » Ils prennent leur envol comme des aigles. On y est là. Ce n'est pas du 3,7 mètres à l'heure, etc. Hein. Mais là, ils prennent parce qu'il y a ce souffle. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu ce matin, eh bien, qui veut renouveler là aussi cette étape de montagne que nous pouvons traverser avec difficulté, de contre la montre, mais qui est une réalité pour nous. Alors, pour être complet, et je termine, il y a un dernier, il y a encore deux autres jours dont on n'a pas parlé. Quels sont ces deux autres jours qu'on accorde à nos braves coureurs du Tour de France? Eh, c'est les jours du repos quand même, hein, il y en a deux. Hein, il y en a deux. Alors, comme le terme le dit, ben, c'est le jour où on se repose, on récupère. J'ai jamais compris pourquoi, pendant un jour de repos, les gars, ils reprenaient quand même leur vélo. Ils vivent, ils pensent, ils dorment vélo, mais enfin, ils reprennent leur vélo, mais ils se décrassent, hein, etc. On prend peut-être du temps avec la famille, on se détend, etc. Parce que sans ces jours de repos, là aussi, ce serait quand même bien, bien, bien difficile pour nos coureurs. Genèse 2, 3 nous dit ceci, « Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, il bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Deutéronome 5, 12, « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Quelle que soit l'étape qu'on traverse ce matin dans nos vies, qu'elle soit de montagne, contre la montre individuelle, accidentée ou la vallée, peu importe, eh bien, Dieu sait que nous avons besoin de repos. Du repos pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. Ce repos ici, c'est l'expression de sérénité. C'est l'expression, bien sûr, de notre foi. D'avoir cette confiance en un Dieu, même si je ne vois pas encore l'eau de la montagne, Seigneur, tu es avec moi. Même si pour l'instant, je n'ai pas le second souffle, Seigneur, tu es avec moi. Même si c'est un parcours accidenté, Seigneur, eh bien, j'ai besoin de toi. En tout cas, Jésus a dit cette parole, vous la connaissez, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui traversez une étape difficile ce matin, venez à moi afin que je vous accorde du repos pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. » Alors je termine et je conclue. On sait, c'est curieux ça comme sport, hein, on sait que le vainqueur du Tour de France n'est pas obligatoirement celui qui a gagné le plus d'étapes. C'est curieux, hein. Il y a un précédent, c'est en 2017, allez, je vais interroger, en 2017, qui a gagné le Tour de France ? Chris Froome, voilà. Il l'a gagné sans aucune victoire d'étape. Il n'a pas gagné une seule étape, et pourtant, il a gagné le Tour de France. Il y a certainement des étapes ce matin dans nos vies que nous n'avons pas remportées. On est des échecs. Le contre-la-montre, la montagne, on s'est planté. On a mis le pied à terre, etc. Mais ce n'est pas pour cela, ce matin, que nous ne pourrons pas, en vainqueur, traverser la ligne d'arrivée céleste. Amen. Le grand Charles a dit ceci, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Et ce matin, peut-être que face à ce qu'on partage, oh, mais moi, mes étapes, pour l'instant, bien, j'en suis pas là, j'ai abandonné, etc. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aime bien ce dernier texte, et on terminera par là. Pour nous, ce n'est pas le maillot jaune qui est prévu sur l'arrivée des Champs-Élysées. Il y a un autre type de maillot, entre guillemets. Apocalypse 3:5. Le vainqueur. Et ça concerne toutes celles et ceux ce matin qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont fait de lui leur sauveur et le Seigneur. Et même si pour l'instant, on a crevé notre vélo, on a déraillé, on a mis pied à terre, il y a une étape qu'on n'a pas pu passer, etc. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Amen. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Quelle récompense, quelle assurance pour nous ce matin. Alors, quelle que soit l'étape que je franchis, que ce matin elle soit difficile ou facile, peu importe, même si j'ai l'impression que je pédale, excusez-moi, c'est une expression peut-être alsacienne, vous connaissez, pédaler dans la choucroute. D'ailleurs, ça vient d'où cette expression, pédaler dans la choucroute, je sais, bon, c'est un spécialiste du pédalage dans la choucroute, vous m'expliquerez. Hein, mais même si ce matin il en est ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. C'est extraordinaire quand même, hein, ce matin. Est-ce qu'on pourrait rendre grâce au Seigneur quelques instants, le bénir, et puis je laisserai ensuite la suite encore à notre sœur Jessica et son groupe ce matin pour la suite.